One, two, three, ho!
Tu vois, ce métier manuel, moi, je changerais ça pour rien au monde, quoi. De me dire que je peux bosser de mes mains tous les jours, c'est matériel, quoi, c'est
Tu
physique.
faisais quoi avant?
De l'informatique.
Ah, et toi, Gilles?
J'étais caméraman, j'étais
Ah
cadreur, du coup, donc c'est assez marrant.
Les sockets en titane.
Bonjour et bienvenue à vous dans Les Sockets en titane, l'émission de radio dédiée au vélo. Nous avons juste le plaisir d'accueillir la cyclerie et Noble Cycle, évidemment la nomade sédentaire qui va déclarer sa flamme à son vélo.
Et oui, à tous les vélos.
Et la meilleure accessoiriste pour vélo, pour PMR et même pour piéton, c'est Chloé Pouqui. Salut, on a des cadreurs, donc votre métier, ça s'appelle des cadreurs. C'est pas le gars qui est responsable de cadrer des images pour la télé ou pour le cinéma. Vous êtes un peu des génies qui, parce que vous arrivez à assembler des bouts de tuyaux et d'en faire un vélo de compète à la fin.
C'est de la plomberie.
La noblesse, hein.
Oui, oui, on va venir dans le côté noble. On va y venir dans le côté noble. On va y venir. Mais donc aujourd'hui, vous saurez pourquoi il faut un vélo ou pourquoi en avoir un autre si vous en avez déjà un.
N plus un.
Et pourquoi en avoir un sur mesure, pourquoi pas aussi. Pourquoi dépenser plus d'un mois de salaire dans un Bexon, pourquoi. Premièrement, la réflexion déjà sur le nombre de vélos à avoir. Avant de commencer cette émission, il est bon de rappeler qu'il n'y a aucune raison de ne pas avoir plusieurs vélos. Vous avez bien plusieurs paires de chaussures. Vous n'allez pas aller faire un footing avec talons aiguilles pour les dames ou pour les hommes des chaussures en cuir de ville. Il vous faut plusieurs vélos comme il vous faut plusieurs paires de chaussures, il me semble.
Ah, c'est un long débat, ça, quand même.
Ça se défend. Hein,
mais... Ça se défend.
Ou pas, mais ça se défend.
Si tu as des baskets, tu peux tout faire avec.
Voilà,
hein. Il y a aussi des vélos qui peuvent tout faire. Hein.
Oui.
Mais ils ne le feront pas de la même manière, quoi.
Voilà.
Je pense qu'ils seront plus polyvalents, mais peut-être moins spécifiques.
Bah, c'est comme les baskets. Qui, voilà.
Exactement. Est-ce que c'est grave? Non.
Voilà.
On arrive toujours au point B avec les baskets.
C'est un peu comme si tu comparais un pur sang, un cheval de trait, un poney, un âne.
Là, on est dans le snobisme.
Pas du tout. La comparaison avec le cheval me paraît tout à fait pertinente.
Non, je soupçonne le pur sang de tomber malade plus vite que le poney, tu vois.
C'est vrai. Et que l'âne.
Sur le poney.
Et l'âne.
Ouais,
mais il y a des ânes de compète et vous en fabriquez, hein, je pense.
Âne de compète, c'est un bon nom pour le prochain. Âne de compète.
La mule de compète, quoi.
La mule de compète,
oui. Oui, il y a des mules de compète.
Bon, commercialement, je ne suis pas sûr.
Non, c'est pas une bonne idée. C'est pour ça que j'ai.
Je ne l'ai pas dit, mais tu ne l'as pas écrit.
Oui. Sinon, au public, je ne le dirai pas.
Je ne le dirai pas, voilà.
Nous accueillons les fondateurs de la marque UFLA, mais avant ça, même le cycle Rouge-Gorge.
Tout à fait, oui.
C'est ça. Et oui, en plus, juste à côté de votre atelier, il y a Pouqui qui est juste là. Hein. C'est pas exactement au milieu de la cyclerie. Hein.
Juste de l'autre côté de l'eau.
Ouais, traverser
l'eau.
Mais je vais souvent chez eux. Du coup, je débarque souvent avec mes sacs. Ouais.
Et alors, ce que j'adore, c'est à côté de toi, il y a Nicolas de Noble Cycle. Et c'est à la fois un concurrent et un pote, en fait, si j'ai bien compris.
Plus un pote que concurrent.
Puisqu'il fabrique aussi des vélos de ses propres mains.
Tout à fait, oui.
Donc,
je crois.
En assemblant des bouts de tuyaux.
Voilà, même métier.
Hein?
C'est le même métier, ouais, effectivement.
Tous les deux plombiers.
Mais on n'est clairement pas concurrents.
UFLA a été créé il y a combien de temps?
Il y a 2 ans et demi, un truc comme ça.
Ouais.
Il y a 2 ans et demi.
Ouais.
L'idée, c'était de faire une marque de vélos de ces petites séries pour rendre les cadres en acier artisanaux un peu plus accessibles, pour simplifier l'offre aussi, en limitant un petit peu les choix, parce qu'au final, il y a quand même plein de cas de figure qui sont récurrents. Thomas avait un peu synthétisé toute cette demande dans un ou deux modèles, et puis on essaie de développer une petite gamme au fur et à mesure des années.
C'est ça, parce que De Roy, c'est les vélos sur mesure. Hein.
C'est ça.
On va en parler après. Hein. Mais avant ça, on va parler de la Saint-Vélotin.
Chaque année, le 14 février, c'est de la Saint-Vélotin.
Et c'est réservé uniquement aux bicyclettes ou aux humains également?
Aux bicyclettes.
Ok, d'accord.
Ouais, uniquement, ouais.
Enfin, aux humains et bicyclette, c'est le tandem, le couple, quoi. C'est la relation que tu vois entre vélo, quand même.
Entre la personne et le vélo,
ben oui.
Ou entre les personnes à vélo?
Non, c'est juste pour le vélo, c'est juste pour l'objet. Donc tous vos vélos que vous fabriquez, il faudra leur faire leur fête mercredi prochain.
Wow. Oh, mais c'est encore un truc commercial.
Non, il paraît que ça ne
vous
vend pas.
Vous devriez faire des actions pour la Saint-Vélotin, vous qui fabriquez les vélos, qui êtes à la source.
Ouais, on est encore en retard. On est encore en retard.
Donc mercredi prochain, hein, comme chaque année, nous fêterons la Saint-Vélotin. Je voulais en profiter donc pour rappeler pourquoi il est important que chacun et chacune d'entre nous, de ne pas oublier de célébrer notre bicyclette le 14 février prochain. Voici quelques exemples. pourquoi il est important de célébrer son vélo. Quand ton vélo est crevé, lui, donc c'est par opposition à la Saint-Valentin, qui elle, est pour les humains. Hein. Mmh. Donc lui, quand ton vélo est crevé, il ne tient qu'à toi de le remettre en état. Il n'y a pas besoin de commencer à... Ça va pas, tu mets des médicaments, ah, je meurs. Quand tu as envie de sortir prendre l'air, ton vélo est toujours au rendez-vous, lui. Jamais ton vélo ne te demandera « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Non, quelques gouttes d'huile sur la chaîne de temps en temps, elle saura se montrer reconnaissant. Quand tu es énervé, il sait, sans même prononcer un mot, comment te calmer, en t'invitant tout simplement à l'enfourcher pour une balade. Quand tu es déprimé, pareil, un petit tour avec lui sur les chemins de campagne pour reprendre goût à la vie, retrouver foi dans l'humanité et voir les vaches. Ton vélo, il adore quand tu l'attaches, lui. Petit coquin. C'est vrai. Ton vélo à la flemme, un petit coup de pompe et hop, c'est reparti. Je suis désolée, c'est vendredi. Hein.
Non, mais je pense qu'ils sont réceptifs, ça va.
Ouais. On est bon public.
Heureusement. Envie d'un resto, d'un cinéma, d'aller voir les copains, pas de problème. T'as même pas à négocier, il t'emmène où tu veux, non seulement sans broncher, mais en plus avec entrain. Et enfin, il adore les compliments. T'as de beaux pneus, tu sais.
Voilà. Oui, mais plus sérieusement.
Voilà,
s'il te plaît, Katia. Non, mais l'amour, c'est rigolo aussi.
Oui, voilà, reste. Bien sûr. Mais plus sérieusement, voici quelques-unes des vraies raisons donc, pour lesquelles il est fondamental de célébrer la bicyclette le jour de la Saint-Vélotin. La première, celle qui préside toutes les autres, est simple. Parce que le vélo sauvera l'humanité.
Ah oui, il sauvera l'humanité.
C'est pas moi qui le dis, c'est Peter Walker, dans son célèbre ouvrage intitulé « How Cycling Will Save the World hein, », qui pourrait se traduire pour ceux qui ne parlent pas italien.
Non, mais ça va.
Je me fatigue moi-même, je rassure tout le monde.
Ça va.
Qui pourrait se traduire par « Comment le vélo peut sauver le monde ?»
Mais enfin, comment peut-il arriver à une telle affirmation, Peter ?
C'est une très bonne question. Donc ces arguments sont simples et finalement très logiques quand on y pense. Vu le temps qui m'est imparti, je vais juste me contenter de survoler très rapidement ces idées, mais n'hésitez pas à vous procurer cette petite Bible pour creuser un peu les thématiques abordées. D'abord, son livre s'ouvre sur un avertissement de taille. De nouveau, attention à mon accent. Not everyone on a bike is a cyclist. Tout le monde, c'est pas parce que les personnes à vélo ne sont pas toutes des cyclistes. Dans les sociétés dominées par la voiture, on a instinctivement tendance à mettre toutes les personnes que l'on voit à vélo dans une catégorie bien particulière, celle des cyclistes. Cette masse à part, étrangement homogène. Alors que dans les pays où le vélo est a une vraie place dans la société, les choses sont différentes. La bicyclette est vue comme un outil, un moyen d'aller du point A au point B. Point de niche ou de masse homogène, point de cycliste.
Bon, ok, d'accord. Mais venons-en à ces arguments. Comment et pourquoi va-t-il sauver l'humanité ?
La première raison invoquée par Peter Walker est la santé, évidemment. Dans son chapitre intitulé « The Miracle Pill », « A bike makes everyone more healthy », donc la pilule d'un miracle, le vélo nous rend tous en meilleure santé. C'est horrible comme traduction. Voilà, c'est vendredi de nouveau. Walker rappelle que la pratique régulière de la bicyclette a des effets positifs sur la santé, notamment comme moyen de lutter contre le fléau du siècle, la sédentarité. Walker met aussi en balance les bienfaits sanitaires du vélo avec le risque d'accident. Il explique que malgré ce dernier, le risque d'accident, donc, les bienfaits pour la santé continuent de l'emporter, y compris au niveau de la sécurité sociale, puisque la pratique du vélo, c'est prouvé, réduit le coût de la sécurité sociale pour l'ensemble de la collectivité.
Oui, c'est prouvé, d'accord, mais est-ce qu'il en a d'autres arguments ?
Tout à fait. Et c'est là que son analyse devient passionnante, car il adopte une perspective plus large que le seul déplacement individuel de la personne à vélo. Il observe les effets de la bicyclette sur la ville et la société en général, comme l'indique le titre du chapitre 3, « Bikes are more equal than cars, social justice on two wheels ». Donc les vélos sont plus égaux que les voitures, la justice sociale sur deux roues. Dans ce chapitre, il nous parle d'émancipation, des personnes en général et des femmes en particulier. Il nous parle de mobilité sans frontières, mais aussi de la rencontre entre les personnes, les échanges que les vélos rendent possibles. Difficile de discuter entre automobilistes au feu quand même. Il nous parle aussi de réchauffement climatique. Bref, les impacts des déplacements à vélo sur la société en général sont plus nombreux. Les impacts positifs, des déplacements à vélo, société en général, sont plus nombreux qu'on ne le pense.
Oui, mais on entend souvent quand même des commerçants qui reprochent aux politiques leur volonté de diminuer la place de la voiture et que ça aurait un impact positif sur leur business. Est-ce qu'il en parle de ça ?
Oui, au chapitre 4, intitulé « Happy and Prosperous, How Big Businesses Learn to Love the Bike ». Walker, il parle de l'effet positif des déplacements à vélo sur le commerce, des arguments qui commencent à être bien connus désormais, vu les effets observés dans les quartiers commerçants apaisés. Le chapitre suivant est intitulé « Build it and they will come ». Vous avez peut-être déjà entendu cette expression. Donc ici, Walker aborde la question du nombre de déplacements à vélo et du fait que celui-ci est directement influencé par la qualité de l'infrastructure. Plus on a de pistes cyclables et autres infrastructures, comme les passerelles cyclopiétonnes, etc., plus le nombre de personnes se déplaçant à vélo sera élevé.
Bah, il a l'air super bien, ce bouquin, en tout cas.
Oui, et c'est vraiment un livre à lire pour tout qui s'intéresse un petit peu à la mobilité. Les deux derniers chapitres sont axés sur les revendications des adeptes du vélo et les mouvements citoyens destinés à réclamer sa prise en compte dans nos sociétés. Au chapitre 6, qui s'intitule « Why cyclists are hated », pourquoi les cyclistes sont détestés, il adopte un point de vue sociologique sur la question. Au chapitre suivant, il aborde la question de la militance, les masses critiques, les die-in, donc c'est quand on se couche par terre hein, pour revendiquer quelque chose, les revendications, etc.
Est-ce qu'il parle du casque, au fait ?
Oui, au chapitre 8, intitulé « If bike helmets are the answer, you're asking the wrong question », qui se traduit par « Si le casque est la réponse, c'est que tu te poses la mauvaise question ». Ici, il parle de « victim blaming », ou le fait de faire porter la responsabilité sur la victime potentielle, le cycliste donc, plutôt que de s'attaquer à la source du problème, les mauvaises infrastructures et les voitures. Il cite les exemples des pays qui ont rendu le port du casque obligatoire, comme l'Australie, et les effets pervers que cela a eu sur la pratique du vélo, etc.
Intéressant. Comment s'appelle encore ce livre, dites-vous ?
Alors, le titre complet, c'est « Bike Nation, How Cycling Can Save the World » de Peter Walker. Donc, merci Peter de nous rappeler que oui, la bicyclette va sauver l'humanité et que dès lors, il est important de penser à la célébrer la semaine prochaine, jour de la Saint-Vélotin.
Joyeux Saint-Vélotin à tout le monde. Allez, voilée la rouge, je sais. Ouais. Vous avez entendu ? Et à Liège, il y a aussi une créatrice, une couturière. On peut dire couturière.
Oui, dans une certaine mesure, oui.
Bah, oui, c'est de la couture. Dans tout ce qu'il y a de plus noble aussi. Même si la maroquinerie, c'est pour les sacs ou c'est pas pour les sacs ?
Bah, c'est un petit peu entre... Enfin, la pratique mélange pas mal de choses entre de la création et du développement de produits.
Et je rappelle que tu es donc les sacs Pookie.
Hein, oui.
Mais pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Et alors,
c'est Pookie.
C'est oui. Pookie, oui. Tu as fait en plus une gamme spéciale qui s'adapte au vélo UFLA.
Oui, c'est ça. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est que le projet des sacs de vélo, qui s'appelle donc Amono, a commencé parce qu'un ami qu'on a en commun avait un vélo de Thomas.
Gros
il ne trouvait
Max,
pas les
bisous.
Sacs, les sacs idéales. Et donc, en fait, il est venu me trouver en disant « J'ai un super vélo, il est incroyable. Ça ne te dirait pas qu'on essaye de faire des sacs ?» Et donc, en fait, c'est de là qu'est né le projet Amono. Et je lui ai dit « Écoute, moi, je m'amuse bien sur les sacs. Je crois qu'on devrait continuer. » Et donc, de fil en aiguille, on a continué. On a lancé le crowdfunding. Et j'oublierai jamais la première fois où je suis passée à la cyclerie, rencontrer Gilles et Thomas, on a déjà rigolé plusieurs fois, où j'avais un stress énorme de savoir ce qu'ils allaient dire des sacs qu'on venait de développer. Et c'est comme ça que ça a fait la première rencontre et qu'on a continué à collaborer. Donc en effet, lorsqu'ils ont lancé UFLA, l'idée a été de pouvoir travailler sur des sacs ensemble, donc sur un petit sac de cadre qui est standardisé et sur les autres sacs qui sont cohérents.
C'est donc, plus bikepacking, ça.
Oui,
alors.
Ça c'est vraiment bikepacking. Mais donc sur ton site, moi je croyais que c'était un truc nouveau. Hein. En fait non, c'est par là que tu as commencé en fait.
Oui, en fait, la rencontre avec eux, c'est ce qui... Enfin, en tout cas, ce fameux vélo, c'est de là où tout a commencé.
Ah ouais.
Et donc, très vite, je me suis retrouvée à faire le kilomètre qui séparait mon atelier à chez eux pour avoir des avis. Ce qui est assez rigolo aussi qu'on constate, c'est qu'avec UFLA, les réflexions qu'on a l'un et de l'autre côté, en général, à un ou deux mois d'écart, on les a d'une manière ou d'une autre, en se disant produire en série, quoi, diminuer, recherche de points de vente, etc. Ce sont des choses auxquelles on est confrontés et c'est chouette, en tout cas, de pouvoir les partager.
Tu sais faire des sacs pour tout type de vélo, donc a priori, tu ne manques pas de débouchés. Entre guillemets,
non.
Il y a beaucoup de vélos que tu pourrais habiller de tes accessoires. Mais par contre, cycle rouge-gorge ou noble cycle, comment vous allez avoir des potentiels clients. Il y a plein, que ce soit un jeune, un gars de mon âge ou un vieux, il est susceptible d'être un jour intéressé par un vélo fait localement, tu penses ?
J'espère. Y a pas,
non, mais parce que...
Oui.
Pourquoi pas ?
Parce que c'est après, peut-être moins facile. Ouais. À un moment, tu as touché le public local. Est-ce que c'est possible de...
Tu parles de marketing ?
Oui, en termes de marketing, pour que tu aies des clients. Et,
ouais.
Et comment toucher un plus vaste public, et même les sensibiliser à cette cause, mettre ça en avant.
c'est un enjeu qu'on a tous d'avoir besoin de se faire connaître et que les gens puissent, en tout cas, quand ils achètent un vélo, savoir qu'il y a une autre option qui existe et qu'ils fassent leur choix en connaissance de cause, entre guillemets, en se disant « Ok, bah, j'ai choisi d'aller acheter un vélo d'une grande marque parce que ça me convient mieux, mais c'est bien au moins que cette personne elle ait eu la possibilité de réfléchir à la question avant et pas de se rendre compte après coup que « Ah, bah, elle aurait pu en fait avoir un vélo fabriqué au bout de sa rue. »
Ouais, c'est toute une démarche derrière. C'est pas tu rentres dans une grande enseigne, tu sors avec un vélo, quoi. Il y a toute une démarche, il y a une réflexion. Ça prend du temps. Enfin, c'est un projet qu'on construit en collaboration avec la personne qui va rouler sur le vélo. Donc, je pense oui, c'est des gens qui ont quand même une affinité aussi avec, comme on disait tout à l'heure, soit le travail artisanal, soit d'avoir envie d'avoir un produit exclusif et de le faire, de le faire eux-mêmes aussi, soit via le biais d'un stage ou même juste le fait de réfléchir à la conception de son vélo. Ben, le client, pour lui, le vélo, il va avoir une saveur un peu différente qu'un vélo que tu passes en caisse tout seul et que tu sors avec, quoi. Enfin, je pense, il a plus d'âme, je veux dire, qu'un vélo que tout le monde peut acheter n'importe comment sans réfléchir, sans se poser de questions. Donc, ça reste de la niche et je pense que tout le monde, il y a plein de gens qui s'en foutent peut-être de ça et qui réfléchissent pas, mais de plus en plus, ça. Enfin, quand on a commencé, on était très peu et c'était plus compliqué, je pense. Et maintenant, comme disait Gilles tout à l'heure, en France, il y en a de plus en plus. Je sais pas, tous les mois sur Instagram, tu as un cadreur qui est clos, on va dire. Donc,
Justement, toi qui as appris avec un vrai artisan, un maître cadreur, est-ce que tu n'as pas quelque chose de plus que tous ces gars qui sortent tous les mois là ?
J'en sais rien. J'ai des
souvenirs.
Quand même.
Ils
n'ont pas eu de maître Yoda aussi.
Une cage avec des oiseaux, une bouteille de Jack.
Et l'éloche en noir et blanc qui résille en permanence. Un tas de vélos par terre.
Les épisodes de Rex à la TV.
On devient tous finalement des maîtres Jedi. Et à travers les stages aussi, c'est ce qu'on fait. Comme Martin l'a dit, il est allé faire son stage chez Nico. Nous, c'est aussi la transmission. Moi, ce que je trouve intéressant dans ça, c'est de montrer, comme disait Nicolas, toutes les facettes de ce métier et aussi pouvoir nous prendre un peu du recul par rapport à ce qu'on fait. C'est super enrichissant pour la personne qui vient le faire et pour nous aussi, je pense qu'il y a un enrichissement de fou. Et plus il va y avoir de gens qui vont prendre conscience de dire « Ah ouais, ok, fabriquer un vélo, comme disait Martin, il y a quand même plein de... C'est pas genre... c'est pas de la plomberie, quoi. » Voilà.
Parce que ça, on les a eu aussi, ceux-là.
C'est comme tout. Plus il y a de gens qui vont avoir conscience de ça, plus on va voir que les vélos en acier, c'est pas des vieux vélos en fer qui traînent dans le fond de ton garage. Tu te bats contre une industrie qui est monumentale et qui a une force de frappe inimaginable. Nous, on a un tout petit truc, mais c'est pas grave. Tant que on a assez de gens pour pouvoir continuer à le faire et faire notre passion un métier, pour l'instant, c'est suffisant. Je veux dire.
Je pense qu'il y a un combat culturel en fait aussi où plus on va dans une société qui se modernise, etc., et plus on se déconnecte des objets qui nous entourent. Et ça permet de relier l'objet à la manière dont il est construit, etc. Et donc je pense que même en tant que consommateur, le fait de se relier aux choses telles qu'elles sont construites, ça le rend plus naturel, plus préhensible, plus humain. Avant, à l'époque de Monsieur Droit, la question ne se posait pas parce que quelqu'un voulait un vélo, en fait, le seul endroit pour le trouver, c'est d'aller au vélociste au bout de ta rue. La plupart, ils fabriquaient un vélo. Donc la question ne se posait pas. Puis on est passé on est toujours dans un régime d'usine où tout est fabriqué au bout du monde, on sait pas trop comment, on sait pas trop quelles conditions, avec d'extractivisme et toutes ces merdes-là. Et à un moment donné, on peut pas tous travailler dans des bureaux et pas savoir d'où viennent les choses, quoi. Exactement. Donc à un moment donné, t'es obligé de te reconnecter à comment est-ce qu'on fait du pain, comment est-ce qu'on fait des planches en bois et comment est-ce qu'on fait des vélos, quoi, tu vois. Et donc je pense qu'il y a plein de gens qui viennent chercher des vélos chez nous, c'est au-delà des cyclistes qui pratiquent. Il y a des gens, ils sont juste dans une démarche d'essayer de reprendre contrôle sur le monde, en fait, simplement.
La vie solide.
Ouais, voilà. La vie préhensible et solide. Ouais.
À lire beau bouquin.
La vie solide.
Si vous voulez, pour comprendre un peu ce qu'on ressent dans le métier d'artisan du cycle, la vie solide, c'est pas mal. C'est d'Arthur, je ne sais plus comment.
Et éloge du carburateur aussi.
Éloge du carburateur.
Je ne sais plus le nom de gamme. Éloge du carburateur tout court. Ah ouais, très, très bon bouquin sur le métier manuel.
Gilles, je rebondis. Là, tu parlais pour le cycliste, donc le client, on va dire. Mais aussi, en tant qu'artisan, je pense se relier, tu vois, ce métier manuel, moi, je changerais ça pour rien au monde, quoi. De me dire que je peux bosser de mes mains tous les jours, apprendre de mes mains, tu vois, me dire qu'à chaque fois, tu t'améliores, c'est une espèce de continuité comme ça.
c'est matériel, quoi. C'est
tu faisais quoi avant?
De l'informatique.
Ah. Et toi, Gilles?
J'étais caméraman, j'étais cadreur, du coup. Attends, j'étais là.
Ah. Okay. Ça donne envie de tout lâcher, d'aller fabriquer des vélos, non?
Ouais. Oui, mais alors, je vous le déconseille fortement parce que...
Ah, merci.
Faut aimer les pâtes et vivre dans 2 mètres carrés, quoi. Ah, mais voilà. Sauf si vous avez une famille fortunée, là, bon, bah, peut-être c'est envisageable. Ah, mais sinon...
C'est quand même pas facile.
Faut pas où, c'est pas où, c'est pas où.
Est-ce qu'il y a d'autres vélocistes comme toi qui font la promotion ou qui vendent vos vélos?
Nous, on a super gros coup de bol à Liège, c'est qu'on a Prové le Liège qui ont accroché à ce qu'on fait.
Ils
et du coup, ils ont vendu, ils nous ont commandé 10 vélos l'année passée et ils nous en recommandent 10 cette année.
Provélo vend des vélos.
Oui.
À Liège. Leur fonctionnement à Liège est un petit peu Liège, différent. Ouais, chaque antenne a des fonctionnements un petit peu différents.
C'est assez marrant, mais c'est plutôt les tenanciers de magasins de vélos. Un peu comme Martin, qui adorent le sur-mesure parce que c'est leur kiff, et qui viennent se faire des vélos, et du coup, ils en parlent à leurs clients. Et au final, on a des clients dans des magasins de vélos, notamment.
C'est que de l'acier ou il y a de l'alu aussi dans tout ça? Parce que, est-ce que c'est des cadres en acier, uniquement en acier?
Uniquement en acier.
C'est quoi encore la phrase avec les sandwichs et les couteaux ou...
L'alu, c'est pour emballer les sandwichs, et l'acier, c'est pour fabriquer des épées.
Ouais, voilà.
Non. De chevalier, ça.
Ouais, mais...
c'est Mathieu. Mathieu,
c'est Mathieu, ouais. Bisous, Mathieu.
C'est pas du tout le présent pour l'alu, quoi.
Oui, mais c'est pas vrai. On peut faire des vélos très bien dans toutes les matières.
Ouais. Ouais, et très pourris dans toutes les matières.
Et très pourris dans toutes les matières.
Ouais, j'imagine.
C'est vrai. D'ailleurs, voilà, enfin, je sais pas si je me trompe, mais moi, ce que j'avais entendu, avant, on faisait que des vélos en acier, puis l'alu est arrivé, mais c'était l'acier est beaucoup plus souple et il est moins rigide que l'alu, hein, c'est juste. Enfin, à la base, donc ils ont mis des fourches amortisseurs. Donc ils ont mis des fourches amortisseurs. À l'époque, les vélos des supermarchés ou quasi les vélos de grands, pas des supermarchés, non, les MBK, tous les vélos
bon,
de l'époque là.
MBK,
hein. Mais il y avait des fourches amortisseurs pour compenser la rigidité de l'alu ou pas? À un moment, ils nous ont tapé des fourches amortisseurs sur tous les vélos qui sortaient.
C'était pas pour compenser la rigidité.
C'était pas pour compenser la rigidité
non,
de l'alu.
Non, c'était pour les fourches, c'est pour aller dans un terrain où tu as besoin de fourches.
Pour VTC, quand tu mets une fourche à suspension.
Ça sert à rien, ça c'est un argument de vente.
Ah, voilà. Ouais, je sais bien, mais c'est... Ouais, c'est... ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien. C'est un ressort, un élastomère, et c'est voué à avoir du jeu et à avoir des problèmes. Et à alourdir le vélo.
La bonne taille de pneus. Mettre des gros pneus. Voilà.
Ouais. Mais bon, sur les VTT 26 pouces, par exemple, en acier, hein, quand ils sont passés aux VTT en alu, est-ce que la fourche suspension n'a pas été obligatoire parce
c'est
que...
la pratique qui a évolué, je
pense. Ouais, c'est la pratique, c'est pas la matière du vélo.
On est de plus en plus dans des terrains de plus en plus accidentés, donc ouais, les vélos évoluent de plus en plus vers des choses... Plus tu vas dans le hors-piste et dans les descentes, plus tu as besoin... Voilà, donc je pense que c'est plus ça qui a fait venir les suspensions sur les vélos.
Mm-hmm. Qu'un problème de matière.
Voilà, clairement.
Je pense, mais dites-moi si je me trompe les autres, j'ai l'impression que plus on va dans un gros volume de pneus, plus le matériau du cadre, on s'en fout un petit peu, en fait, en termes de comportement et de...
Oui, mais encore une fois, ça dépend comment il est fait, quoi, tu vois.
À géométrie similaire,
la diamètre de tube égal,
non, ça non, bah, ça non, du coup, c'est impossible. Ça, c'est impossible, mais
voilà, mais c'est ça, le truc. Ouais. C'est ça. Il y a tellement de paramètres.
Il y a trop de paramètres.
Ouais. C'est compliqué de dire ben voilà le cadre aluminium il est pas confortable et le cadre acier est confortable.
C'est pas si simple.
Il y a un peu de vrai,
c'est un peu vrai quand même.
Mais c'est plus compliqué.
Un travail pas pareil quand tu roules sur des bosses, des trous.
Je vais donner un exemple. Par exemple, le titane qui est un super matériau. J'ai entendu plein d'amis qui ont acheté des cadres en titane et qui ont roulé un deux mois avec et qui ont arrêté de rouler avec.
Ils n'ont pas aimé.
Et ils m'ont dit, ouais, c'est une bûche, c'est trop rigide, j'arrive pas à l'emmener, je suis fatigué très rapidement, ça va super bien, mais ça me fatigue trop. Et ils ont mis ça sur le compte du titane. Mais c'est pas la faute du titane, je pense.
Ah bon ?
Voilà, non, c'est la faute peut-être de la fabrication du cadre. Le cadre, il est prévu pour être, il a des gros tubes énormes, il est super, super rigide, il est peut-être mal conçu. Donc je pense que tu peux retrouver ça dans le carbone, il y a des cadres carbone qui sont peut-être plus adaptés... pour faire des longues distances, d'autres moins. Et c'est pareil pour l'acier, tu peux faire des cadres en acier moins confortables que d'autres. Quoi.
Mais l'avantage, j'ai l'impression, un des avantages principaux, c'est que comme tu peux travailler avec des diamètres de tube plus fins, tu peux avoir
plus de flex
et donc de confort à l'amortissement
de l'aération. Tu peux aller vers quelque chose de plus confort. Ouais,
mais ça n'a de sens qu'avec des pneus fins ou en dessous d'une taille moyenne, entre guillemets, dans le sens où à partir du moment où tu passes sur du super gros pneu, sur un VTT typiquement... ça change rien. Mais l'avantage de la matière, c'est plus facile à travailler. c'est, environnementalement, c'est mieux, c'est moins coûteux, c'est plus recyclable, c'est, à réparer, c'est relativement facile. Voilà, c'est des avantages techniques peut-être plus pour la...
De l'acier, là.
Oui, pardon. Ouais,
et un cadre en alu, après 10 ans, il est plus bon aussi, non? Il n'y a pas un truc comme ça?
Je ne suis pas sûr.
Si tu roules tous les jours dessus...
Non, l'alu ne rouille pas.
L'acier
rouille pas.
Il y a quand même de la corrosion sur l'alu aussi, mais pas au point de...
Mais l'alu peut casser, par exemple. Non,
plus
la déformation est plus
faible que l'acier. Ouais.
Voilà, qu'est-ce qui est plus faible?
Sa capacité de se déformer, de récupérer sa...
C'est-à-dire qu'avec le temps, sa forme, ouais.
Le boîtier prend énormément de mouvements non-stop tout le long de sa vie.
Il va se ramollir, quoi.
Le boîtier, le pédalier, voilà, où il y a beaucoup de force. Et forcément, avec le temps, il va vieillir moins bien que l'acier.
Oui, c'est moins durable, en fait.
Fatigue.
Le bon exemple, c'est si tu prends une plaque d'acier, une plaque d'alu, et que tu les plies dans un sens et dans l'autre, la plaque d'alu va céder beaucoup plus vite que la plaque d'acier.
L'avantage de l'alu, j'imagine, c'est le poids.
Le coût de fabrication.
Le coût de fabrication, surtout.
Ah,
le poids, pareil, c'est pas un argument.
Parce qu'en fait, comme c'est plus tendre, justement, t'es obligé de surdimensionner les diamètres de tube. Alors, ça a du sens, par exemple, pour un vélo de piste ou un vélo de course, où on veut énormément de réactivité, et tu vas te retrouver avec un cadre qui est peut-être légèrement inférieur en poids, mais surtout, il va être plus rigide. Alors, ça a des sens pour certaines applications, mais moins pour d'autres.
Moi, j'ai mon vélo de course, c'est de l'alu, effectivement, et oui, je le sens bien.
C'est rigide.
Je le trouve moins confortable.
Oui, c'est ça. Mais l'avantage, par contre, c'est qu'il est léger et très peu coûteux à fabriquer. Mm-hmm. C'est la raison principale d'exister.
Ah bon? C'est plus facile à faire.
Ouais, un cadre en alu, ce qui vient d'Asie, là, qui sort d'une boîte, c'est, je sais pas, c'est 20 balles ou 10 balles, j'en sais rien. Ouais.
Sérieux?
Oui.
Oui, oui.
Allez.
Ouais, bah c'est la peinture et les autocollants dessus, c'est la peinture et les autocollants dessus qui vont faire ça coûte, quoi.
10 fois plus cher que le cadre, quoi.
En fait, c'est ça qui est marrant, ici on défend le cadre, mais la plupart des problèmes ils viennent des pièces. Bon, et ça, on saurait pas les fabriquer de manière, enfin très peu de pièces peuvent être fabriquées de manière artisanale. Oui.
D'ailleurs, il y a un gars qui fabrique des roues chez vous à la cyclerie.
Ouais, c'est moi.
Ah, c'est toi.
Mais je les monte, je les fabrique pas. Enfin, je fais de l'assemblage, quoi.
Hélas.
Ouais, c'est du rayonnage, donc
tu assembles.
J'assemble.
Cercle, moyeu.
Le moyeu et les rayons. Et le choix des composants, c'est un peu la même logique que sur la construction d'un cadre ou sur un montage. On choisit avec la personne ce qui convient le mieux à l'usage et au budget déterminé.
Et le nom de ces roues se nomme
Karma Wheels.
Karma
Wheels. On rajoute encore un nom parce que c'est pas assez compliqué.
C'est ça, surtout à distance sans vous voir.
Tout ça, la cyclerie.
La roue sur un vélo a vraiment une importance fondamentale, par exemple au démarrage, que selon le poids et j'imagine la qualité, j'en sais rien, de la roue, que tu vas vraiment sentir une vraie différence. Qu'il y a des gens qui investissent des milliers dans un super cadre et puis que c'est des roues de merde et en fait...
Faut pas faire ça.
Faut pas faire ça. Moi, c'est la raison pour laquelle j'en ai monté, c'était très antécédent en fait de vouloir devenir mécano-vélo ou fabriquer des vélos, c'était bêtement pour moi. Et j'ai commencé à le faire pour moi parce que je trouvais pas ce que je cherchais et puis au bout des années, je me suis dit que ça pouvait potentiellement être un métier, mais c'était bêtement un choix purement égoïste dans un premier temps.
C'est fabriquer des vélos, c'est ça, c'est cumuler plein de métiers différents. Claire. Et... Voilà, donc, mais la peinture, ouais, c'est pas moi qui l'ai fait, mais on fait ça en famille. Ouais, voilà.
C'est des belles couleurs, hein, c'est sur le site. Hein.
Merci.
Ouais, parce que c'est vraiment l'aspect extérieur, la peinture. Donc,
c'est le truc que les gens le voient le plus, oui. C'est
ça,
sûr,
ça, les sales Brooks.
Elle est plein flambée aussi.
Et les chaînes dorées.
Tout, non, c'est juste que t'en mets une sur un vélo et le reste du vélo est invisible, je sais pas pourquoi.
Le vélo prend 500 balles direct. Ouais,
direct.
Ah, moi j'ai la mienne depuis des années.
Ah ouais, mais c'est super bien, c'est juste.
Un fauteuil quoi.
C'est un. Ouais, c'est.
C'est des choses comme ça.
C'est des trucs bizarres comme ça. T'sais.
C'est du snobisme.
Non, c'est,
non, je pense
c'est marqué
pas.
Dans les esprits.
C'est vraiment
pas mal. Attends, Clément, je pars en voyage à vélo là-dessus. Je mets pas de cuissard, rien. Hein. Je peux être tranquille toute la journée. Quoi.
Et tu vois, pareil, il y a d'autres marques qu'on connaît moins qui font la même chose, peut-être même un peu mieux. Quoi.
Ah bah donne des
marques.
Il
y a même une marque française.
Idéal.
Idéal, oui.
C'est Idéal, c'est juste une tuerie.
C'est français aussi.
Ouais, mais faut vendre un rein, quoi. C'est super bien, mais faut vendre un rein.
C'est encore plus cher.
Je crois que c'est 250 balles.
Ouais, tu vois.
Une Brooks, une B17, c'est 133 euros.
Non,
aussi.
Il y a Berthoud, j'avais dit.
Ouais, Berthoud. Berthoud, c'est un peu moins cher, non?
Berthoud, c'est pas
beaucoup.
Oui, c'est un peu moins cher, quoi.
À l'époque, je connaissais pas toutes ces marques-là. Je connaissais que Brooks, mais c'est vrai que Berthoud.
Idéal, c'est incroyable.
Et alors, juste Idéal, le service, c'est super. Ils sont super.
Le mec est super sympa.
Ils font ça en famille aussi.
Ils ont repris les machines de l'époque. Ils font vraiment ça à l'ancienne et tout.
C'est comme ça que vous mettez. Enfin, à la demande, j'imagine, selon. on nous vole les désirs du client.
Est-ce qu'on en a déjà mis J'en ai déjà récupéré en seconde main.
Moi, j'y pense maintenant parce que j'ai mis la première il n'y a pas longtemps. Et franchement,
c'est incroyable.
C'est top. Super service.
Quelle marque vous parlez?
Avec un E à la fin, je suis sur leur site.
C'est vraiment une marque historique des composants de cycle.
C'est que la cambium de Brooks, en fait, apparemment.
Non,
cambium, c'est plus en cuir.
Non, c'est que du cuir. L'idéal, c'est que cuir, ouais.
Ah ouais.
Pleine fleur. Et alors, il sélectionne aussi. Non, mais c'est.
Il sélectionne même le.
Il sélectionne l'épaisseur du cuir en fonction du poids du cycliste, etc. C'est découpé sur place et tout, quoi.
Allez.
Ouais. Non. Si, si.
C'est vraiment important, une selle. Déjà, elle doit être bien réglée, pas trop en avant, pas trop en arrière.
Si t'as pas de selle, c'est moins drôle.
on a un client à Liège qui roule les flics en selle.
Effectivement, c'est vraiment important. Quoi ?
On a un client de la cyclerie qui se déplace sur son vélo sans selle, sans tige de selle.
Je pense qu'il en avait marre de se faire piquer, donc il l'a laissé comme ça. C'est Liège, quoi, c'est normal.
Bah, c'était un immense plaisir de vous avoir. Cycle Rouge-Gorge, UFLA Cycle, Noble Cycle, Vélo of Course et les sacs pour vélo, c'est Pouki. Merci. Prenez attention à vous.
Bon week-end. Au revoir.